Et cette conférence, enfin, nous avons intitulé cette conférence « Hymne à la joie, hymne européen ». En fait, je n'ai pas du tout l'intention de faire de cette conférence un débat politique. Simplement, je pense que ce que je vais vous dire vous permettra tout simplement d'en tirer les conséquences et de voir pourquoi la 9e symphonie a pris une telle importance, je peux dire, aussi bien en tant qu'hymne européen, que également ce que n'a pas été dit, que j'ai lu tout à fait occasionnellement dans un article il y a déjà plusieurs années de ça, que c'est l'hymne à la clôture du Concile Vatican II s'est faite par une exécution de la 9e symphonie à Saint-Paul hors les murs pour tous les pères de l'Église. En fait, je vous mets tout de suite dans le feu du sujet. La 9e symphonie est à la fois un hymne, ou si l'on veut, un chant de louange à la franc-maçonnerie, mais également, et ça c'est quand même important, l'expression de la personnalité profonde de Beethoven. Donc ce sont les deux aspects que nous allons un peu étudier ce soir, mais étant entendu que l'analyse que j'en ferai sera beaucoup plus orientée sur le plan des symboles de la maçonnerie. Outre son environnement historique, la vie de Beethoven éclaire bien des aspects de sa personnalité. Effectivement, il naît en 1770 à Bonn, donc faites le calcul, 1789, il a 19 ans. Et son climat familial est instable, le père est alcoolique, la mère de santé précaire meurt en 1787. Beethoven a donc 17 ans. Le père tente de faire de son fils un enfant prodige. Celui-ci aura son état civil rajeuni de 2 ans, même. Supercherie qu'il ne découvrira que tardivement. Ses études musicales et scolaires se déroulent sans continuité, sous la direction de maîtres médiocres ou incompréhensifs. Les études scolaires sont interrompues dès l'âge de 12 ans. Sa culture sera celle d'un autodidacte. En 1782, il a alors 12 ans. Il est introduit par son ami Wegeler dans la famille Breuning, qui l'initie à la littérature allemande. En musique, son professeur Christian Gottlieb Neff est le premier à comprendre le caractère de son élève. Il lui fait connaître le clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach et les sonates du fils Carl-Philippe Emmanuel. Sans doute, ceci est important quand on sait que c'est un adolescent, a-t-il contribué à lui faire connaître la littérature allemande. Et également, Neff était vraisemblablement franc-maçon, ce qui fait qu'il a ouvert la porte sur la philosophie des Lumières. L'année 1784, continuons, 14 ans, marque l'avènement d'un nouveau prince électeur à Bonn, le duc Maximilien Franz de Habsbourg, frère de Joseph II. Il propage les idées nouvelles dans l'électorat et est féru de musique. Beethoven vient adjoint à la cour, répétiteur du théâtre, musicien d'orchestre, et ainsi s'imprègne du courant intellectuel qui y règne. En 1789, il s'inscrit à l'université de Bonn pour suivre des cours de littérature allemande. Or, l'université de Bonn est ouverte aux idées de la Révolution et est l'un des foyers les plus actifs de la franc-maçonnerie rhénane. Les membres les plus influents appartiennent aux Illuminés de Bavière, parmi lesquels se trouvent Neff, donc le professeur de musique de Beethoven, Enlog Schneider, un moine défroqué, qui fut également le professeur de Beethoven à l'université. En 1792, il rencontre Ludwig Fischenich, ami personnel de Schiller. Peut-être est-ce lui qui lui fit connaître l'hymne à la joie, que vous avez entre les mains, dont le texte est de Schiller. Le 2 novembre, Beethoven part pour Vienne, où il prendra quelques leçons avec Joseph Haydn, lui-même franc-maçon, mais pas franc-maçon actif. Il ne s'y plaît guère. Vienne étant alors une ville de plaisir. pauvre en vie intellectuelle. Sa vie de déracinée commence, déracinement qui s'est manifesté par de fréquents déménagements. En effet, il occupa 30 logements différents pendant les 35 années qu'il vécut à Vienne. Bonn est occupée par l'armée française. L'électeur Max Franz s'enfuit. Beethoven se trouve alors libre, personne n'emploie, et il refuse de se mettre au service d'un prince. Pour subsister, il donne des leçons et s'occupe de l'édition de ses œuvres. En 1795, il commence une carrière de pianiste virtuose. Il donne des concerts en 1796 à Prague, Nuremberg, peut-être Leipzig, Dresde, Budapest, etc. Il fit sûrement un séjour à Berlin. C'est à cette époque que sa santé s'altère. Et c'est de là que va venir en partie tout le drame que nous connaissons. D'une petite vérole contractée pendant son enfance, il garde une faiblesse des yeux. Il souffre d'une entérite chronique et commence à sentir les premières atteintes de la surdité. Entre parenthèses, je ne vais pas noter là, je vous dis tout de suite que quand Beethoven composa la 9e symphonie, il était intégralement sourd. Il n'en a pas entendu une note, ce qui est quand même assez extraordinaire. Peut-être même a-t-il contracté la syphilis, mais je tiens à dire, aucun document ne l'atteste de manière certaine. Il y a des gens qui vous disent carrément, il y a un médecin qui me dit, mais en fait, on ne sait pas. Le général Bernadotte, ambassadeur de la République française à Vienne du 8 février au 13 avril 1798, fait de son ambassade le centre de ralliement de tous les partisans de la Révolution. Beethoven fréquente assidûment ses salons. Le général lui suggère d'écrire une symphonie à la gloire de Bonaparte. Ce sera la symphonie héroïque. Mais, lorsque le général Bonaparte devint empereur, Beethoven, ennemi de toute autocratie, raya la dédicace et vit simplement à la mémoire d'un grand homme. Rodolphe Kreutzer, également franc-maçon, dédicataire de la fameuse sonate pour violon et piano, faisait également partie de l'ambassade. Il est vraisemblable que Beethoven, à cette époque, ait eu ses entrées dans les sociétés secrètes où se retrouvaient les jacobins allemands et autrichiens. Le délabrement de sa santé n'empêche pas Beethoven, entre les années 1796 et 1801, d'avoir une vie sociale intense, riche en succès. Pendant quelque temps, il sera même l'homme du jour. Son activité et son abord jovial, sauf lorsqu'il souffre trop physiquement, ne permettent pas à son entourage de soupçonner son angoisse face à l'aggravation de la surdité. C'est le 6 octobre 1802 qu'il écrit le fameux testament de Heiligenstadt, dans lequel il crie son désespoir et sa tentation de suicide. En 1803, il commence la composition de son seul opéra Fidelio, dans lequel apparaissent la louange de l'amour conjugal dont il aura la nostalgie toute sa vie et la passion de la liberté. Aux alentours de 1810, la vie de Beethoven n'est guère extérieure. Il se consacre à son œuvre et à des amis avec lesquels il se brouille et se réconcilie tour à tour. La rencontre avec Bettina Brentano lui permet une rencontre avec Goethe. On sait le peu de cas que Goethe fit de l'admiration que lui vouait Beethoven. Cependant, dans une lettre à sa femme, il fait allusion à cette rencontre. « Je n'ai encore jamais vu un artiste plus puissamment concentré, plus énergique, plus intérieur. Je comprends très bien que son attitude doit être extraordinaire à l'égard du monde. » Alors l'histoire sentimentale. Beethoven sait prendre un certain nombre de jeunes femmes qui lui apportent un réconfort incontestable. La moindre biographie donne des détails plus ou moins discutables sur ce sujet. Ce qui demeure certain, c'est que Beethoven possédait un sens familial très aigu et qu'il désirait fonder un foyer stable et aimant, ce à quoi il n'arriva jamais. C'est la raison pour laquelle il reporta son besoin d'affection sur son neveu Karl, qui semble avoir été un bien mauvais sujet. En 1814, la place de Beethoven est marquée au congrès de Vienne, parmi les grands hommes à honorer. Dans les rues, les marchands le saluent, les étudiants en droit et en médecine l'acclament. Il est en relation avec le capitaine Pinterest, connu pour ses opinions d'extrême-gauche. Des amis s'inquiètent pour sa sécurité. À partir de l'année 1815, apparaissent des préoccupations religieuses qui se traduisent par des recherches dans la sagesse grecque, chez les poètes orientaux, dans la philosophie hindoue, Sans doute l'influence de la franc-maçonnerie n'est-elle pas étrangère. Il ne semble pas qu'il pense au catholicisme. Les 10 dernières années de sa vie sont celles des grandes œuvres qui expriment sa personnalité intégrale. Les derniers quatuors, la Missa Solemnis, la 9e symphonie, les dernières sonates pour piano, les 33 variations sur un thème de Diabelli. Elles témoignent de la vitalité prodigieuse de cet homme toujours malade, à la fois solitaire et entouré d'amis. La surdité établit un mur entre le monde extérieur et lui. Cependant, les cahiers de conversation révèlent que des amis fidèles le visitent, qu'il s'intéresse à tous les événements politiques de son temps et même aux simples potins de la ville. En raison de ses opinions politiques exprimées à haute et intelligible voix, il est sous la surveillance de la police. Jusqu'à sa mort, il projette de nouvelles œuvres. Une de ses dernières grandes souffrances sera la tentative de suicide de son neveu Karl, dont il exerçait la tutelle. Il ne faut pas oublier non plus les difficultés financières qui l'obligent en 1823 à proposer sa candidature au poste de maître de chapelle à la cour de Vienne, candidature qui fut rejetée. Le 18 mars 1827, il écrit au pianiste Moscheles « Toute une symphonie esquissée sur mon pupitre ». Il devait mourir 8 jours plus tard, le 26 mars. Les Viennois lui rendirent hommage par de somptueuses obsèques. Bon, après ce résumé, voyons un petit peu sa personnalité, qui a été en quelque sorte façonnée par les courants idéologiques de son époque et surtout par Kant et Hegel. Plusieurs documents attestent l'admiration de Beethoven pour Kant. Dans son journal, il en a recopié des passages entiers. De Kant, il tire son armature morale, basée sur la vertu, en tant qu'héroïsme humain et non comme vertu surnaturelle. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le testament de Heiligenstadt, dont nous avons parlé tout à l'heure, daté du 6 octobre 1802. « Recommandez à vos enfants la vertu, soulignée. Elle seule peut nous rendre heureux. C'est elle qui m'a relevé dans ma détresse. Je lui dois comme à mon art de n'avoir pas fini ma vie par le suicide. » En 1810, dans une lettre à Gleichenstein, « Qu'il en soit ainsi pour toi, pauvre Beethoven. Il n'y a pour toi aucun bonheur de l'extérieur. C'est toi qui dois créer tout entier en toi-même. Seulement dans le monde idéal, tu trouveras des amis. » Sur la conception kantienne de l'art, nous allons laisser la parole à Romain Roland. L'effet de la musique pour Kant, comme pour Schiller qui s'en inspire, est, comme le montre Victor Pasch, d'accompagner et de traduire en sensations extérieures analogues les mouvements intérieurs de l'âme. Or, ces mouvements intérieurs sont soumis à des lois nécessaires. Et cette nécessité se communique aux mouvements extérieurs qui servent à les exprimer. Quand le musicien pénètre dans le mystère des lois qui régissent les mouvements intérieurs de l'âme et qu'il parvient à découvrir l'analogie qui règne entre les émotions humaines et certains phénomènes extérieurs, il passe du domaine du caprice dans celui de la nécessité. Et voici ce qui est très important. Il doit étouffer l'individuel et devenir la loi harmonique, apaisée, sereine, impersonnelle, consciente et maîtresse d'elle-même, de ce qu'il y a d'éternel et de nécessaire dans le genre humain. Fin de citation. Nous pouvons voir dans cette citation que c'est la clé de l'inspiration et de la réalisation à la fois du poème de Schiller et de la musique de Beethoven. Pour ce qui concerne la 9e symphonie, hein, étant entendu que quand je parle de la 9e symphonie, je n'englobe pas toute l'œuvre de Beethoven. Et donc, il doit étouffer l'individuel, je répète, devenir la loi harmonique, apaisée, sereine, impersonnelle. Cependant, dans la 9e, le mot Gott, Dieu, bénéficie d'un grand point d'or que nous entendrons tout à l'heure sur un accord fantastique du cœur, expression d'une grande foi. Or, à partir de l'année 1815, sans doute sous l'influence de la souffrance, les références à la toute-puissance, à la protection, à la gloire de Dieu sont de plus en plus fréquentes. Mais l'art en devient presque divinisé. Voici ce qu'il écrit lui-même. Sacrifions la vie à l'art, qu'il soit un sanctuaire. En 1817, toujours Beethoven, immole à ton art une fois encore toutes les mesquineries de la vie sociale. Dieu au-dessus de tout. Déjà en 1812, il semble faire un appel dans lequel demeure la confiance en sa propre force. Ne sois plus homme que pour autrui. Renonce à l'être pour toi-même. Pour toi, il n'est plus de bonheur, hormis en toi, par ton art. Ô Dieu, donne-moi la force de me vaincre. Rien désormais ne doit plus m'enchaîner à la vie. N'oublions pas qu'à cette époque, Beethoven sentait la maladie qui empirait et la surdité qui lui conduisait à une impasse complète comme musicien. Sous l'effet de la solitude, de la surdité, de la maladie, du désir d'une vie familiale en 1815, mon Dieu, abaisse tes regards sur le malheureux Beethoven. Ne me permets pas que les choses demeurent ainsi. Et la même année, et une petite cour, une petite chapelle, où le chant écrit par moi sera exécuté à la gloire du Tout-Puissant, de l'Éternel, de l'Infini. Il reconnaît son néant en face de Dieu. As-tu déjà entendu mes grandes œuvres? Je dis grandes. Auprès des œuvres du Très-Haut, tout est petit. Il adore le Dieu créateur dans sa création, idée que l'on retrouvera dans la 9e symphonie. Dieu est immatériel. Aussi sommes-nous dans l'impuissance de nous représenter son image. Parce qu'invisible, il est amorphe, mais parce qu'il nous est donné de voir dans son œuvre, il nous est permis de conclure à son caractère éternel, omnipotent, à sa présence universelle. Au Tout-Puissant, à lui seul, l'envie, la cupidité sont étrangères. Sa grandeur n'a point d'égal. Ô Dieu, tu es la lumière véritable. Accepte mille et mille lois, cependant que toujours tu agis librement. Tout ce que nous adorons, tu l'as précédé. À toi nous louanges, à toi notre adoration. Toi seul, tu es le bienheureux. Toi l'essence de toutes les lois, l'image de la sagesse. Tous nous sentons ta présence. Tu portes toutes choses. En fait, il est très difficile de comprendre ce qu'est Dieu pour Beethoven. Il est sans aucun doute une puissance qui régit toute la création. Mais l'homme doit accéder à la divinité et semble-t-il devenir homme-dieu par la souffrance. Le combat contre le destin qui n'est autre que le déroulement de la vie. Celle-ci forme les héros. Il s'agit de l'héroïsme humain qui combat contre les forces adverses afin de réaliser sa destinée qui, pour Beethoven, est l'art. Mais Dieu triompha peut-être de cet orgueilleux qui voulait vaincre et créer par ses propres forces. Lors de sa dernière maladie, Beethoven enleva l'inscription théiste du temple égyptien qui était sur son bureau et l'imitation de Jésus-Christ était son livre de chevet. Sur son lit de mort, après avoir reçu les derniers sacrements, il prononça cette phrase sibylline, « Finita la comedia ». Était-ce la comédie de la vie qu'il voyait se terminer ainsi que son combat intérieur? Ou était-ce le plaisir procuré à son entourage en recevant le prêtre dont il ne désirait pas la visite? Ceci reste le secret de Dieu. On ignore si Beethoven connut la pensée de Hegel, son contemporain. Effectivement, Hegel est né en 1770 exactement comme Beethoven. Mais il est mort plus tard, puisqu'il est mort en 1831, et que Beethoven est mort en 1827. Quoi qu'il en soit, un courant semblable se manifeste dans son œuvre. Comme chez Hegel, les premières manifestations du socialisme et du marxisme apparaissent. Ainsi, pour Beethoven, l'art doit-il contribuer au bien et au devenir de l'humanité et des plus pauvres. C'est par l'art que les hommes seront sauvés. Aussi l'artiste devrait-il être dégagé de toute contrainte matérielle. Beethoven, comme Luther, donnait la priorité à l'action. Le but est dans l'action et non dans le résultat, disait-il. Ne sois pas un de ceux pour qui l'aiguillon de l'action est l'espoir d'une récompense. Ne laisse pas la vie s'écouler dans l'oisiveté. Sois travailleur, accomplis ton devoir, élimine la pensée des conséquences et du résultat, qu'il soit bon ou mauvais. Car cette équanimité rappelle ton attention vers la spiritualité. Cherche un refuge dans la seule sagesse, car le vrai sage ne se soucie pas du bien et du mal de ce monde, C'est pourquoi il faut te soucier de conserver cet usage de la raison, car un tel usage est un art délicat dans la vie. Beethoven désire s'éloigner de la vie contemplative en donnant la priorité à l'action, praxis souvent héroïque, mais qui conduira peu à peu au marxisme. De même que chez Hegel, l'idée sous-tendant toute action, chez Beethoven, une même idée jalonne toute une œuvre en un perpétuel devenir, qui n'est autre que l'évolution du thème. Dans la 9e symphonie, le retour des différents thèmes dans le dernier mouvement, ainsi que le thème de la joie, en sont des exemples. Ce qui caractérise la sonate beethovenienne, et donc tout ce qui en découle, la symphonie, est la dialectique des thèmes au sens propre du terme, en leur devenir et leur devenir, qui est à la fois l'image du conflit intérieur et de l'évolution d'une cellule musicale qui donnera naissance à l'œuvre, ce que nous verrons dans le final de la 9e symphonie. De même que le marxiste vit une évolution permanente prise dans un mouvement sans fin, parfois l'auditeur se trouve pris dans un tourbillon sonore rythmique dont il ne perçoit pas la fin. Passons maintenant à la 9e symphonie. Deux aspects sont à considérer, l'aspect musical et le sujet en lui-même. Le thème de l'hymne à la joie jalonne les compositions de Beethoven et le texte de Schiller le hante également toute sa vie. Ces deux éléments ne furent réunis dans sa pensée qu'à la suite d'une longue maturation. La composition n'en est abordée qu'en 1822 et sera terminée en 1824. Avant d'aborder la musique de Beethoven et ce que Beethoven fit du texte de Schiller, une analyse de celui-ci s'impose pour comprendre son appartenance à la franc-maçonnerie. Alors c'est là, vous avez le texte. L'ode à la joie de Schiller fut écrite à Dresde ou à Leschwitz dans le second semestre de l'année 1785 chez son ami maçon, Christian Gottfried Körner. Il semble que Schiller faisait partie du tiers-ordre de la franc-maçonnerie. Beethoven, lui, on ne sait pas s'il a été franc-maçon, il a été probablement initié, mais on n'a pas de document le prouvant, et ce qu'il y a absolument certain, c'est qu'il n'a fréquenté d'une manière assidue aucune loge maçonnique. Il était imprégné des idées maçonniques, il en connaissait, je peux dire, toutes les clés, par le fait de ses relations, mais qu'il ait été franchement franc-maçon, on n'en est pas sûr du tout. Autant il y a des musiciens, on sait qu'ils ont été francs-maçons, comme Mozart ou Joseph Haydn. Autant Beethoven, on ne le sait pas. L'ode à la joie de Schiller, destinée à des loges maçonniques, a été utilisée dans plusieurs réunions de maçons. Schiller, plus tard, renia son poème. Je crois d'ailleurs qu'il avait raison. Malgré un certain feu du sentiment, un mauvais poème marquant un stade de son développement que j'ai complètement dépassé, qu'il dit en 1800. Le voici tel qu'il a été utilisé par Beethoven. Alors c'est là où je vous ai mis dans une colonne le texte allemand et dans l'autre colonne le texte français, qui n'est pas très bon en tant que français, mais j'ai préféré prendre une traduction la plus littérale possible du texte allemand. J'ai là une traduction de Berlioz, qui est beaucoup plus jolie, en tant que français, mais qui s'éloigne finalement considérablement du sens. Et comme d'autre part, ça vous permettra, avec le texte allemand, surtout si certains d'entre vous connaissent un petit peu l'allemand, de suivre ensuite les couplets lors de l'exécution du dernier mouvement. Bon, je le lis quand même. Joie, 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 belle étincelle des dieux, fille de l'Élysée, nous pénétrons avec un ardent enthousiasme ô céleste, dans ton lieu saint, ton enchantement réunit ce que la convention a rigoureusement séparé. Tous les hommes deviennent frères, là où ta douce aile plane. Premier couplet. Deuxième couplet. Celui auquel a réussi le grand coup de dé d'être l'ami d'un ami, celui qui a conquis une noble femme, que sa jubilation se mêle à tous. Oui, celui qui ne peut nommer qu'une seule âme comme sienne sur la terre, mais celui qui ne l'a pas pu, qu'il se dérobe en pleurant à l'égard de cette union. Troisième couplet. Tous les êtres boivent la joie aux mamelles de la nature. Tous les bons, tous les méchants suivent sa trace de rose. Elle nous a donné les baisers de la vigne. Un ami éprouvé jusqu'à la mort. La volupté a été donnée au ver et le chérubin se tient debout devant Dieu. Couplet suivant. Joyeux, joyeux, joyeux comme le vol des soleils au travers de la splendide surface du ciel. Courez, frères, sur votre chemin, joyeux comme un héros vers la victoire. Puis, étreignez-vous, millions d'êtres, ce baiser au monde entier, frères, au-dessus de la voûte étoilée, un bon père doit habiter. Et dernier couplet, vous prosternez-vous, millions d'êtres, pressens-tu le Créateur, monde, cherche-le au-dessus de la voûte étoilée, il doit habiter au-dessus des étoiles. D'autre part, nous verrons que Beethoven a ajouté des paroles au début. Une des significations de ce poème est donnée par les Massins dans une biographie remarquable de Beethoven. Pour Schiller, la joie était intimement liée, presque jusqu'à l'identité, au déploiement de l'activité humaine. Et l'Élysée, dont la joie est la fille, Dr. Haus et Lusium en allemand, répondait à une notion précise. Il s'opposait d'une part à l'Arcadie, c'est-à-dire au mythe de l'Éden et de l'âge d'or, à la félicité primitive. L'Élysée n'était pas en arrière, mais en avant de l'histoire humaine. Par ailleurs, l'Élysée s'opposait à l'idée d'un ciel transcendant et surnaturel. L'Élysée de Schiller, c'est la dernière étape de l'histoire, le moment où le royaume de Dieu s'établit sur terre par la réalisation de la fraternité humaine selon les idées de Kant épousées par Schiller. Le moment où les états politiques disparaîtront dans le règne universel de la raison, le moment où l'action des hommes conquérera le paradis de la joie. Fin de citation. Nous voyons poindre une actualité brûlante qui n'est autre que le nouvel ordre mondial. Et ça date de Schiller, c'est dans les idées de Schiller. Donc vous voyez 1784, 85, je ne sais plus, la date de l'ode à la joie. Des remarques de Beethoven déjà citées sont à rappeler dans un autre contexte. Elles montrent qu'il ne pouvait s'approprier le texte de Schiller et qu'il le comprenait certainement dans toute son étendue. En 1815, il note « Pour rapprocher du passé le devenir, il faut dire que le passé a engendré le présent. » C'est toujours l'idée qu'on avance. Le but, et je rappelle, le but est dans l'action et non dans le résultat. Comme pour Schiller, la joie ne peut se trouver que dans l'action, qui pour le musicien est la création de son œuvre. Et cette citation de Kant rappelle les derniers vers de l'ode à la joie. La loi morale en nous et le ciel étoilé au-dessus de nous. Les notions philosophiques. Les croyances énoncées par Beethoven sont dans la ligne de l'ode à la joie. De ce fait, elles revêtent plus d'importance que les résonances sentimentales qu'on peut lire ailleurs, par ailleurs. Du reste, dès qu'il en eut connaissance, il fut enthousiasmé et déjà germa en lui l'idée de le mettre en musique. Ce projet apparaît en 1792, c'est-à-dire 20 ans avant la composition de l'œuvre. Et le fameux thème de l'hymne à la joie, qu'on connaît tous, va parsemer toutes ces années de Beethoven, et on va trouver des carnets d'exquises de Beethoven, où on le trouve, et on le trouve dans certaines de ses œuvres. Je ne vais pas vous donner la liste parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Si ça vous intéresse, si certains d'entre vous s'intéressent, j'ai le tableau des différents, j'ai des photocopies du tableau des différents thèmes, je vous donnerai simplement ce qui est important à savoir dans le contexte de la 9e symphonie. Ce n'est qu'en 1807 que Beethoven envisage une œuvre dans laquelle s'uniront les voix et les instruments. Et c'est alors qu'il écrit la fantaisie pour piano, orchestre et chœur en ut majeur, qui est également sur un texte maçonnique. Vous voyez, comme quoi, 15 ans avant. En 1812, Beethoven songe à une symphonie en ré mineur. De cette époque date une esquisse sur la fille de l'Élysée. Dès 1817, le premier mouvement de la symphonie en ré mineur est esquissé. Mais il est interrompu. Beethoven élabore le plan d'une symphonie avec chœur distincte de la 9e, qu'il prévoit comme 10e symphonie. Autrement dit, il a commencé par prévoir deux symphonies, et ensuite il en est devenu une seule. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour. À la fin de l'année 1822, l'hymne à la joie est envisagé comme finale de la 10e symphonie. Parallèlement, vous voyez, toujours il y a la cheval sur deux symphonies. Les trois premiers mouvements de la 9e symphonie sont composés pendant les années 1822 et 1823. Un final uniquement instrumental est alors envisagé. Il ne prendra sa forme définitive qu'entre les mois d'octobre 1823 et 1824. L'hymne à la joie de Schiller, chanté par des chœurs et des solistes, accompagné par l'orchestre. L'élaboration de la 9e symphonie montre combien chez Beethoven, l'œuvre est la conséquence d'une longue méditation, de la recherche d'une forme définitive et parfaite. Bon. Présenter une analyse détaillée de cette œuvre ne ferait que répéter ce que d'autres ont fait. Par contre, nous tenterons de dégager l'idée qui régit l'œuvre. Il est fondamental pour sa compréhension de ne pas oublier que Beethoven était dans l'impossibilité de rester entièrement fidèle à un texte poétique. Sa puissante personnalité l'assimilait et le faisait sien, d'où des modifications, des transformations dans le plan. La musique doit faire obéir le poème à ses lois, ce qui n'empêche pas l'unité de l'œuvre et de partir de la signification du texte. Il y a des cas où c'est la poésie qui régit la musique, là c'est la musique qui va régir le poème. Autrement dit, la puissance, le génie de Beethoven est là, pas de problème. La franc-maçonnerie allemande au XVIIIe siècle s'inspire des mystères grecs et égyptiens. Les cérémonies d'initiation en étaient certainement inspirées. Ainsi s'explique le terme Élysée. L'Élysée figure très probablement, pour ne pas dire sûrement, le temple de la franc-maçonnerie dans lequel les hommes se retrouvent frères. Il y a ceci dans l'optique de Beethoven, peut-être plus que dans l'optique de Schiller. Il s'agit dans la première strophe de la joie de l'initié qui entre dans le lieu saint, vous me suivez, hein, et qui trouve l'union avec ses frères, dont il était séparé par la convention du monde, c'est-à-dire par la société, la religion, etc. Dès le premier vers de la deuxième strophe, le mot « wurf » qui se traduit littéralement par « coup », pourquoi « coup de dé » serait une allusion, ça c'est mon opinion personnelle, aux trois coups frappés au début de la cérémonie maçonnique. C'est ce coup, initiation, que l'initié. C'est par ce coup, initiation, que l'initié trouve l'ami, une noble femme. Nur eine Seele, une seule âme, la possibilité de ne former qu'une seule âme avec ses frères. Celui qui n'a pu être initié pleure d'être écarté de cette alliance. Dans la troisième strophe, les mamelles de la nature sont célébrées comme source de joie pour tous les êtres vivants, bons et méchants. L'allusion au naturalisme de Rousseau est donc très perceptible. La quatrième strophe rend hommage à l'action des frères dans le monde entier, action qui sera couronnée par la victoire. Dans la cinquième strophe, cette victoire étant remportée, le monde uni en une immense fraternité s'étreindra dans un baiser. Il ne sera plus esclave de la terre. Au-dessus de la voûte étoilée, il faut qu'un bon père habite. La sixième strophe est un chant de louange à l'esprit créateur, figuré par le bon père, dont émane toute la création. L'ode à la joie clame le bonheur de l'initié d'avoir pénétré dans l'alliance maçonnique. Tel est le sens du poème de Schiller. Mais tout en rendant hommage à la franc-maçonnerie, Beethoven a projeté ses propres croyances dans l'interprétation musicale du texte. Maintenant, voyons un petit peu la musique. Le symbolisme des nombres est largement utilisé dans les sectes maçonniques. C'est lui qui révèle les intentions de Beethoven. Aussi est-il nécessaire de le rappeler brièvement. Le chiffre 1 est le symbole de l'unité parfaite, source de l'harmonie universelle. Le 2 figure l'élément reproducteur, base de la multiplication des espèces. Il tire son origine des deux principes masculins et féminins. Le 3 représente la perfection dans l'unité, le point d'équilibre parfait, et symbole gnostique, l'homme, corps, âme et esprit trinitaire. Voyons la gnose. Le chiffre 4, selon Pythagore, est source de l'éternelle nature parce qu'il se trouve dans ses éléments terre, eau, air, feu, 4, ainsi que dans les quatre points cardinaux. Nous faisons allusion à l'étoile. Or, l'étoile flamboyante à 5 branches est l'image de la connaissance parfaite. Aussi, le chiffre 5 est-il celui adopté par la plupart des sectes gnostiques. Le chiffre 10 est celui de la tétraktis des Grecs, qui symbolise le tout, la totalité et l'harmonie de l'univers. Alors, maintenant, un peu technique, j'espère que vous pourrez me suivre. La 9e symphonie est conçue dans 3 tonalités principales. Ré majeur, si bémol majeur, non, ré mineur, d'abord. Ré majeur, si bémol majeur. Or, le ton de ré mineur a un bémol à la quinte. Celui de ré majeur, 2 dièses. Et si bémol majeur, 2 bémols. Voyons, 1, 2. Le 1, l'unité de la projection. Beethoven ne choisissait pas ces tonalités au hasard. Et nous verrons que même si bémol majeur, qui est le ton du mouvement lent, est également le ton de l'entente de la symphonie pastorale. Et ce n'est certainement pas un hasard. Lorsque Beethoven voulait célébrer la nature, il utilisait ce 2. Et ce 2, effectivement, si bémol majeur, 2 étant les chiffres de la nature dans le symbolisme maçonnique. Alors maintenant, je vais demander aux opérateurs un petit instant, je vous précise. Bon, nous allons donc d'autre part, il y a 4 mouvements, ce qui est normal pour une symphonie, mais ça s'ajoute à cette idée du 4, qui est des 4 éléments, des 4 points cardinaux, puisque l'hymne à la joie, la multiplication des espèces, doit se faire des hommes dans le monde entier, donc dans les 4 points cardinaux. Nous allons voir que le premier thème, en ré mineur, donc ton de l'un, de l'unité parfaite, un motif initial de 2 notes, est répété 10 fois. Il est clair que dès les premières mesures, Beethoven désire exprimer la portée universelle de son œuvre et rendre hommage à la création. C'est développé, voilà, vraiment 10, et il y a de notes. Tata, tata, tata. Le deuxième thème, en si bémol majeur, est le ton qui va se rapporter aux éléments de la nature. Le 2 exprimant la création sous tous ses aspects. Je passe très rapidement sur les premiers mouvements pour m'attarder davantage sur le final où vous avez donc le texte de l'hymne à la joie. Ça ne veut pas dire que les autres mouvements ne sont pas intéressants. Je vous donne simplement des petits flashs, mais étant entendu que ça peut être développé beaucoup plus que je le fais ce soir. Alors, le deuxième mouvement, qui est un mouvement rapide, est écrit sous la forme de scherzo. Il est aussi en ré mineur, comme le mouvement initial, mais sur un rythme initial de 3 notes, ta, 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 répété 4 fois, qui exprime la perfection dans l'unité. Les quatre répétitions peuvent laisser supposer un hommage rendu à la multiplicité de la création, mais enfin, elles peuvent aussi être la conséquence de la seule nécessité musicale. C'est une mesure à trois temps. Là, je ne pense pas qu'il faille quand même voir systématiquement un symbole maçonnique sur le fait qu'un scherzo est à trois temps, vu que ça fait partie de, j'allais dire, de la convention musicale. Donc, n'extrapolons pas. Par contre, le trio est à deux temps. Alors ça, c'est plus extraordinaire. En ré majeur et avec une longue phrase aux instruments avant. Alors effectivement, nous allons voir une très grande utilisation des instruments avant, car les instruments avant faisaient partie des colonnes d'harmonie des réunions des loges maçonniques. Ceci s'explique parce que ça vient des musiques militaires. Pendant la Révolution française, il y avait les fanfares, les harmonies militaires que peut-être existaient et qui ont été évidemment dans les armées révolutionnaires. Et comme les armées, il y avait tout un corps maçonnique dans l'armée, ces instruments avant sont entrés dans les loges maçonniques. Ce qui fait qu'ils ont accompagné les cérémonies d'initiation. Raison pour laquelle vous avez souvent des allusions maçonniques par les instruments. Et c'est ce que vous allez avoir dans ce trio, un fragment du trio, où vous allez avoir d'abord le corps, et ensuite le hautbois, un petit accompagnement. Et les cordes sont tout à fait en second plan. Passer au troisième mouvement, qui est le mouvement lent, qui est une page absolument extraordinaire au point de vue musical. Ça, c'est à mon avis le summum de la nouvelle symphonie. Enfin, je trouve ça fantastique, les extraits, qui est un thème avec trois variations. Et là aussi, nous voyons le chiffre 3, l'importance du chiffre 3. Il y aurait pu y avoir plus de variations, il y en a trois. Alors, nous avons d'abord un thème exposé, un motif exposé de 10 notes aux instruments avant, clarinette et basson. Qui est un andante moderato à trois temps, vous voyez, toujours trois, qui revient, sur un motif de 5 notes aux cordes. variation dont je ne parlerai pas d'exemple est en mi bémol majeur, tonalité maçonnique par excellence, utilisée par Mozart dans la flûte enchantée et dans la symphonie en mi bémol, et qui débute sur un motif de trois notes aux clarinettes, instrument maçonnique par excellence. Et enfin, la troisième variation, qui est de nouveau en si bémol majeur, et la variation du thème est accompagnée par un motif rythmique de trois notes au corps. Qu'il y a quand même une idée directrice qui est là. Il ne s'agit pas de faire des choses, on pourrait dire c'est arbitraire, mais là je ne pense pas. Et maintenant nous allons passer au final, grand moment de la neuvième. Ce mouvement, et alors ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement est divisé en plusieurs sections. 5 récitatifs, nous sommes toujours sur le chiffre 5, précède l'entrée du thème de l'hymne à la joie. Le morceau débute en ré mineur sur une mesure à 3 temps. Et le motif initial de la symphonie, celui que nous avons entendu tout à fait au début, est répété 5 fois et non 10, car il s'agit maintenant du devenir de l'action dans le monde et non de la représentation de la perfection du tout exprimée par la tétractice. Le rappel des deux mouvements précédents, que je ne pourrais pas écouter parce que ce serait trop long, suggère l'harmonie, l'union de l'un et de la création dont la connaissance ne peut s'acquérir que par l'initiation. Les tonalités de ré mineur, si bémol majeur, ré majeur sont rigoureusement maintenues. Vous voyez, vraiment, toujours dans la même direction. Le thème de l'hymne à la joie fait son entrée dans le ton solennel de ré majeur, louange de la création et plus particulièrement de la fraternité humaine. Le thème est exposé intégralement au violoncelle avant d'être repris par les cordes sous un contre-champ au basson, instrument avant. Il comprend, j'ai compté, 55 notes, ce qui confirme la primauté du chiffre 5. La mesure à 4 temps est l'image de l'expansion de la fraternité humaine aux 4 points cardinaux de la Terre. Initial amène le récitatif du baryton en ré mineur, nous n'allons pas écouter. Beethoven a ajouté des paroles au texte de Schiller, donc là vous ne l'avez pas. Je vous le dis en allemand d'abord, aux Freunde nicht diese Tönen, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freundvoller, ô amis, par ces sons, mais au contraire, laissez-nous entonner dans la plénitude de la joie. La première partie de la phrase exprime l'idée de l'amitié et des sons est en ré mineur, la joie en ré majeur. Maintenant, il y a toujours une opposition entre les deux. Et Beethoven modifie l'ordre des strophes, alors vous allez avoir des surprises, qui se présente ainsi, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6. Et il rejoindra la notion philosophique de la tétractice, non par la loi des nombres, mais par la superposition de la première et de la sixième strophe, c'est-à-dire la joie et la multiplication qui doit se multiplier, donc cette réunion dans le tout de la création, de la totalité dans, sur les quatre, sur toute la terre. La première strophe débute en ré majeur. Le premier vers, vous allez entendre, est accompagné au violoncelle par un motif de cinq notes, toujours, qui confirme son caractère initiatique. S'incline devant la grandeur de la majesté divine. Vous allez le voir, je vous le dis tout de suite. Ce sentiment qu'il a souvent exprimé dans ses écrits au cours des 12 dernières années de sa vie. Et alors c'est là où il échappe à l'emprise des idées maçonniques. Vous allez voir comme l'élévation vertueuse est exprimée par un accord absolument, par la nuance fortissimo d'un effet absolument saisissant que vous allez avoir un peu plus loin par le cœur. Il y a une idée qui va dépasser, ce qui, je trouve, qui dépasse le côté purement, je vais dire, humaniste de la franc-maçonnerie. Et alors, nous allons voir arriver, alors maintenant, une page héroïque, où vous avez donc le héros qui court à la victoire, que vous avez donc dans le texte, et où alors nous avons les instruments avant et la batterie, qui sont des instruments de combat, n'oublions pas. Et ceci, il s'agit bien ici d'un combat qui doit aboutir à l'âge d'or de l'humanité correspondant à une immense fraternité. Le ton de si bémol majeur naturel, avec ses deux bémols à la clé, figure l'expansion de la franc-maçonnerie dans le monde. Et après un mouvement effréné de croche que nous allons entendre, le ton solennel de ré majeur, expansion, revient et ramène la première strophe sur une mesure à 6-8 qui est essentiellement ternaire, donc 3. La division ternaire des temps figurant la plénitude acquise par le combat. Je pense en dehors de toute référence à la franc-maçonnerie du reste dans l'histoire. Le destin doit être vaincu, l'idée de Beethoven. L'idée centrale, c'est là où ce n'est plus tout à fait le texte de Schiller, c'est Beethoven qui s'exprime. Et je pense même que Beethoven s'est identifié au héros qui court vers la victoire. Une marche, avec les instruments avant, toujours. Thank you. Son majeur, Zeit und Stunden Millionen, étreignez-vous millions d'êtres. Or, la tonalité de Son majeur a un dièse électrique. L'union des hommes, et ainsi Beethoven exprime-t-il l'union des hommes sous la voûte étoilée, symbole de la connaissance parfaite. Vous ne pouvez pas utiliser. Alors, d'autre part, ce qui est intéressant, que j'ai remarqué d'ailleurs cet après-midi, en relisant ma conférence, c'est qu'il y a chez les théosophes, les anthroposophes, une étude sur la signification des tonalités d'ordre cosmique. Et comme nous savons que Beethoven a fréquenté des cercles théosophiques, il n'est pas du tout exclu qu'il l'écoute. Je m'explique, je vais essayer schématiquement pour les gens qui ne sont pas musiciens de vous l'expliquer. Vous avez une tonalité centrale. Vous avez au-dessus la tonalité qu'on appelle la dominante, qui se rapporte au ciel, qui ira vers le ciel. Tout ce qui est spirituel. Et la tonalité qui est en dessous, cette tonalité initiale, qui est la sous-dominante, qui se rapporte à la terre. Or, nous voyons qu'ici, étreignez-vous millions d'êtres sous la voûte étoilée, sur terre. Or, sol majeur, par rapport à ré qui est ici, sol est en dessous. Donc, il n'est pas du tout exclu que Beethoven ait pris cette tonalité en fonction de cette signification-là. Ce n'est pas... Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est son génie qui l'a pressenti? Je n'en sais rien. Mais... il est certain qu'on peut se le dire, parce que ça colle admirablement avec le texte. Là, de même, nous avons une mesure à 3-2, qui est une mesure qui va illustrer cette perfection atteinte dans l'unité, le 3 dans l'un. Et alors, j'ajoute une chose, c'est que là, il n'y a que les cœurs d'hommes. Alors, nous savons que l'initiation à l'époque de Beethoven concernait uniquement les hommes. Il n'était pas question à l'époque d'initiation féminine. Ce n'est venu que plus tard. Enfin, il y en avait, certes, en France, mais enfin, c'était surtout la franc-maçonnerie s'adressait d'abord aux hommes. Les femmes, nous n'y avions pas droit. Allez-y.
Yeah.
dans un mouvement plus lent. Nous allons revoir deux bémols à la clé. En fait, il ne s'agit pas uniquement des hommes, mais de tout l'univers qui se prosterne devant son créateur. Et du reste, vous remarquerez le mouvement descendant qui est musical, qui est bien la projection de cette inclinaison, je peux dire, qui est une adoration du reste. Le 2 des deux bémols exprimant le mouvement de toutes les créatures vers le bon père. Et c'est en mineur, concentration, qui exprime une concentration, qui exprime justement beaucoup plus cette idée d'inclination devant la majesté divine. Cependant, l'illusion loge maçonnique est sous-jacente, malheureusement. Dans l'orchestre, par l'utilisation des instruments avant, une harmonie très chromatique qui figure le chaos qui précède la lumière et l'ordre de la nature exprimé par la tonalité de mi bémol majeur et par les paroles au-dessus des étoiles il doit habiter. L'ordre est là-haut. C'est lui qui doit arriver à nous. Et autrement dit, l'équilibre parfait est atteint dans les relations entre le Créateur et l'univers. Superpose les premiers vers Freude, Schöne und Götterfunken, donc joie, étincelle des dieux, Azeid und Schlungen Millionen, étreignez-vous millions d'êtres. Il transforme même les premiers vers en ajoutant Freude, wir betteten dein Heiligtum, joie, joie, nous pénétrons dans ton lieu saint, chanté par les voix de soprano. En joignant l'étreinte des millions d'êtres à l'entrée dans le lieu saint, Beethoven donne une merveilleuse synthèse de ce que pour lui est la joie. Une seule étreinte dans l'Élysée. On peut se demander s'il s'agit du lieu où vit le bon père, ou si l'Élysée doit être pris dans le sens de Schiller, l'âge d'or de la fraternité humaine auquel doit atteindre l'histoire. Il est probable que dans la pensée beethovenienne, les deux notions se confondent. La dernière strophe en ré majeur, accompagnée par des groupes de cinq notes, encore répétées aux instruments avant, toujours et répété avec insistance. Le texte de Schiller est nouveau mais modifié. Zurt in Übersternenzelt, Übersternenzelt muss ein lieber Vater wurde. Alors, au-dessus de la voûte étoilée, cherche un père, un bon père doit habiter. Ce qui prouve que Beethoven rend davantage hommage au père de toutes choses que Schiller. Il insiste en même. Il conclut la phrase en sol majeur, la joie ne pouvant s'exprimer en mineur. C'est toujours pareil ce que je vous ai dit, en dessous la terre est en opposition avec le ciel.
Thank you.
maintenant. Les premiers vers sont de nouveau chantés en ré majeur. Vous voyez toujours cette projection. On remarquera pour les musiciens une modulation en si majeur. Or, si majeur à 5 dièses à la clé, toujours le 5. La vocaliste s'effectue, il y a des vocalises qui s'effectuent sur 3 triolets de croche, le 3, qui conclut 4 doubles croches, le 4. Le 5, le 3 et le 4 sont réunis dans un souci de complémentarité. Elle le mentionne, avec répété 4 fois, sans doute pour rappeler que les hommes viennent des 4 points cardinaux. Et enfin, la conclusion qui sera une explosion de joie des millions d'êtres en ré majeur. La 5e strophe qui loue cet amour universel précède la conclusion qui se fera par les premiers vers, joie, belle étincelle des dieux, fille de l'Élysée, qui nous emporte dans un tourbillon de vie intense.
Thank you.
remercier de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop empiété sur l'horaire. Si, je suppose que si M. l'avait d'accord, si certaines personnes me posaient des questions, je suis disposée à leur répondre, dans la mesure où je pourrais. Si vous avez des questions à poser, des réflexions. Nous en restons là. Monsieur Coubert. Si, alors en fait, j'ai surtout cherché, je peux dire, par les écrits de Beethoven, dans toutes les citations qu'on donne. Et puis alors surtout, je crois qu'il y a un ouvrage qui est particulièrement intéressant dans celui-ci, c'est celui d'ailleurs que dans ce sens-là, si on sait lire au travers des lignes, c'est l'ouvrage de Beethoven par Brigitte Bassin, enfin les frères Bassin, qui était aux éditions Fayard, qui est une étude monumentale sur Beethoven, et où il y a des renseignements très intéressants sur la franc-maçonnerie. Et c'est, d'ailleurs c'est là que j'ai tiré une grande partie du commentaire de Schiller. Et puis alors, d'autre part, je pense que si vous voulez, si je suis arrivée à faire cette synthèse, c'est également par d'autres connaissances. Je vais vous dire, pour moi, la clé, je vais vous dire comment je suis allée à la franc-maçonnerie dans la musique. Ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. J'ai été amenée à suivre, il y a déjà 169, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, des cours à Nice de Jacques Chaillet, qui avait fait un cours sur la flûte enchantée de Mozart, dont il a édité un livre après, qui est très intéressant du reste. Et c'est là que j'ai découvert, je peux dire, l'action de la franc-maçonnerie dans la musique. Je n'en avais pas la moindre idée. Et il y a un certain nombre de choses que j'ai pu retrouver dans d'autres œuvres maçonniques dont je me suis inspirée. Vous voyez. Il y a le livre de Jacques Chaillet, qui d'ailleurs il a un livre sur Parsifal, et il y en a un autre, une plaquette sur le voyage d'hiver de Mozart, de Schubert. Et c'est, je pense, lui a fait donc un certain nombre de recherches sur la franc-maçonnerie. J'ai même eu une conférence à Annecy à l'automne dernier faite par lui, où il disait qu'il n'a eu aucun problème pour accéder aux documents, ce qui ne m'étonne pas, parce que moi, je sur une suggestion qui m'avait été faite pour avoir des documents sur la musique maçonnique, on m'a dit « écrivez donc au Grand Orient France ». Ce que j'ai fait, on m'a envoyé une liste bibliographique, j'ai pu commander les livres que je voulais. Effectivement, il y a des documents qu'on peut avoir facilement. Vous voyez ? Alors, je pense que c'est tout un travail de recherche qu'on peut faire en prenant un peu à droite et à gauche. Mais ce qui est important, c'est de se référer au texte de Beethoven et de le remettre en parallèle avec tout le contexte qu'il environne. Autre chose ? C'est sûr ? Mais c'est sûr ? C'est bien d'ailleurs ce que je dis sur Beethoven. J'ai bien dit que Beethoven, on n'a aucune preuve de la franc-maçonnerie de Beethoven. Il y a des gens qui vous disent qu'il est franc-maçon, d'autres qui vous disent pas, on n'en sait rien. Mais il était imprégné des idées maçonniques et il a bu ça à toute sa jeunesse, quoi. Il l'a absorbé, absolument. Mais n'empêche qu'il fallait s'aller au-delà. Parce que vous avez une imprégnation maçonnique dans d'autres œuvres de Beethoven, si vous voulez, vous pourriez dire de gnostique ou autre, mais où il n'y a pas de symbolisme maçonnique à proprement parler. Vous voyez, là, ce qui est intéressant de voir dans cette œuvre-là, c'est qu'il y a une œuvre qu'on sait maçonnique, qui est le poème de Schiller, ça, il n'y a pas de problème, et que Beethoven connaissait les symboles maçonniques de la musique et qu'il l'a mis au service du poème. C'est ça qui est intéressant. Mais il avait une telle personnalité qu'il est allé au-delà. C'est là où on a le chef-d'œuvre, d'ailleurs, entre nous, parce que ça reste un chef-d'œuvre. Enfin, il n'y a pas de... Et alors, il y a un message qui m'a énormément frappé, qui vient de Jacques Darnoux, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Et c'est dans les paroles d'un revenant, donc qui n'est plus hésité, où il dit quand il était, donc vous savez que Jacques Darnoux, issu d'un accident d'aviation pendant la guerre de 14, s'est retrouvé paralysé complètement, et qu'il a, je peux dire, réagi, et qu'il a puisé ses forces d'énergie dans la 9e symphonie de Beethoven, dans la symphonie avec cœur. Ce qui prouve bien qu'il y a une dimension qui est au-delà de la franc-maçonnerie, parce que Jacques Darnoud, tel que nous le connaissons, ne pouvait pas prendre le symbolisme maçonnique, il prenait autre chose, et qui existe. Vous voyez, ça c'est certain. Oui. Catholique. 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 Ah ben, dans la 9e symphonie, mais vous avez des textes de Beethoven où il fait allusion au Christ, mais il l'assimile un peu à Socrate. Et vous avez une œuvre de Beethoven qui est le Christ au monde des Oliviers, que je connais très mal, mais qui est prise par certains comme œuvre religieuse, mais qui, où semble-t-il, le Christ est pris d'abord comme un grand héros humain avant d'être Dieu. Une vision un peu humaniste. Et vous avez la messe en, et si je prends la messe en ré de Beethoven, la Missa Solennis, qui est également un chef-d'œuvre, mais qui évidemment n'est pas dans l'esprit liturgique d'une messe. Ça, c'est évident. C'est superbe, ça a été, c'est contemporain de la 9e symphonie. Là-dedans, je pourrais vous dire qu'il n'y a aucun symbole maçonnique, il ne faut surtout pas en chercher. Mais il y a un caractère très, très humain qui évidemment n'est pas, ne va pas dans un contexte liturgique. C'est... De toute façon, Beethoven ne pouvait rien écrire sans mettre sa personnalité dedans, sans donner sa dimension. Autre chose ? Maçonnique, oui. Oui, oui. Je ris, parce qu'il était utilisé dans les loges maçonniques, tout simplement. C'était très utilisé, que Mozart l'a utilisé justement, ainsi que le corps de Basset à l'époque. Dans les instruments maçonniques. Bon, alors, ceci dit, moi, c'est ce qu'on m'a appris. J'ai appris en histoire de la musique. Par ailleurs, il y a un livre qui vient de paraître, qui est paru assez récemment, que j'ai lu, qui s'appelle « La musique et la franc-maçonnerie » de Chipouti, où ils disent qu'il ne faut quand même pas exagérer dans ce sens-là. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que les instruments avant étaient utilisés dans les loges maçonniques. Et que dans les œuvres maçonniques, on se réfère souvent à la citation maçonnique dans les œuvres par l'utilisation des instruments avant. Ce qui ne veut pas dire que quand vous entendez les instruments avant, ça soit systématiquement franc-maçon. Il faut quand même bien faire la part des choses. Il y a quand même une référence. Il y a quand même une référence qu'il faut avoir pour être sûr que ce soit franc-maçon. Vous ne pouvez pas dire d'emblée c'est franc-maçon si vous n'avez pas une référence au départ. Ça revient exactement à ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas dire que quand vous entendez un instrument avant, systématiquement c'est maçonnique. Par contre, dans des œuvres que vous savez d'inspiration, qui ont une référence, vous savez que l'instrument avant n'est pas utilisé gratuitement. Vous voyez, c'est ça. Et l'utilisation des instruments avant dans la 9e symphonie est absolument fabuleuse et certainement supérieure à celle d'autres symphonies de Beethoven qui n'ont rien de maçonnique. C'est ça qui est important. Mais c'est tout. L'orchestre, de toute façon, comporte les instruments avant et vous pouvez avoir de très belles œuvres. Avec des instruments avant, il n'y a rien de maçonnique dedans. Il faut, parce qu'alors, à ce moment-là, on ne s'en sortirait plus. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Et puis alors, ce que je disais hier à un ami, c'est que nous parlions de la symbolique. Vous avez une symbolique maçonnique et une symbolique chrétienne, qui en réalité est la même, mais elle ne dit pas la même chose. Et c'est ça le problème. Donc il faut voir la référence pour comprendre. Il faut avoir quand même certains points de référence. Il y a quand même ça, dont il faut tenir compte. C'est vrai que dans la symbolique chrétienne, c'est les simplets du Christ. Ça n'a rien à voir avec la gnose. Tout à fait. tout à fait. Mais la franc-maçonnerie a repris ces symboles qu'elle a remis dans son contexte à elle. La franc-maçonnerie n'a pas inventé quelque chose. C'est ça qui est important à savoir. La franc-maçonnerie a pris des symboles chrétiens, des symboles grecs, toute une symbolique existante qu'elle a adaptée à la gnose en réalité. Bon, je me suis couvert, j'ai l'impression que vous approuvez ce que je suis en train de dire, parce que vous êtes un spécialiste de la question, alors je me plais. Comment? C'est pas autre chose. Et la symbolique chrétienne a pris chez les Grecs, et a pris chez Pythagore. Donc c'est pour ça qu'il faut encore avoir certains points de référence, c'est quand même avoir dans un contexte. Si j'entends le chiffre 3, si vous parlez du chiffre 3, ça peut être la Trinité, comme ça peut être l'homme trinitaire de la gnose. Et Beethoven ne croyait pas à la Trinité, semble-t-il. Donc quand il utilise le terme, quand il utilise le 3, c'est pas le mystère de la Trinité. C'est ça.